Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Là, c'est la fièvre des séries. On entre dans une certaine fièvre. Là, je sens plus de frénésie dans la ville, au Québec, que, disons, dans la première ronde. On pensait que le Canadien allait se faire planter. Et une chanson qu'on entend souvent quand le Canadien a du succès, c'est la chanson des Locolocas.
Et c'est au Québec qu'il fait pas froid, il fait frais, c'est de même parce que c'est de même. Puis c'est bien correct, on a de la place en masse. Puis nos face à face, on les fait sur la glace. Alors on lasse nos pattes à nos casses, c'est comme Maurice.
C'est devenu une chanson de ralliement du Canadien de Montréal qui évoque le hockey. Ça s'intitule Le but de Locolocas. Et, écoutez, c'est une chanson qui a été réécrite, recomposée par Danick Martineau et Maurice de la Relève. On va écouter un extrait de sa chanson.
Ici, c'est au Québec, il fait pas froid, il fait frais, tu stresses pas, si c'est 3-1, on va gagner en 7. On a Carey, Dainette, qui vole toujours la vedette. Suzuki, Caulfield, honnêtement, il manque juste Ginette. Et comme Maurice, on glisse en direction de la deuxième ronde. Tout le monde capote, même ma blonde, jusqu'à la dernière seconde. Tout le Québec...
Danick Martineau est au bout du fil. Salut, Danick.
Bonjour, bonjour.
Donc, humoriste de la relève, t'as eu un beau flash. Je pense que ça a un peu mis le feu aux médias sociaux aujourd'hui, cette chanson-là.
Ah, certainement. Je pense que le Québec en entier est derrière les Canadiens. Il y a beaucoup de partisans de séries au Québec. Hein. Moi, je suis un partisan qui est là toute la saison, mais il y en a beaucoup qui se rallient pour les séries éliminatoires. Et je pense que j'ai choisi le bon moment pour sortir une petite chanson sur nos glorieux.
Ça faisait longtemps que tu travaillais les paroles dans ta tête comme ça, là?
Non, absolument pas. J'ai écrit ça dans la journée même où j'ai sorti la vidéo. c'est une certaine facilité que j'ai à écrire des chansons, honnêtement. Si je pouvais puncher en humour aussi facilement que j'écris des chansons, je serais déjà mon troisième one-man show. Fait que c'est un petit talent que j'ai, je voudrais dire.
C'est une chanson qui est importante pour toi ou tu l'as découverte récemment, là, la chanson Le but de Locolocas?
Ah, cette chanson-là, pour moi, c'est la chanson d'une vie. Ça me ramène dans les moments de jeunesse. Ce fameux moment-là où Locolocas ont écrit la chanson l'année que les Canadiens avaient battu les Bruins et les Flyers, si je me trompe pas. En tout cas, on allait affronter les Flyers en finale de l'Est, je crois. Et ça me ramène à des souvenirs de moi très jeune qui y croit. Et cette année, je me permets de dire que j'y crois plus que jamais. On a le King Carey dans les buts. Et ça me rend très excité. Puis je l'ai écrit avec tout mon amour pour cette équipe-là, puis toute ma passion pour le hockey.
Ben, Danick, on a un invité spécial pour toi, quelqu'un qui connaît bien la chanson Le but. Biz est au bout du fil. Salut, Biz!
Oh! Salut Patrick, salut Danick.
Wow.
Je voulais te féliciter. Tu m'as fait beaucoup rire avec ta reprise. Et nous, juste pour te dire, ça nous a pris 2 ans et demi de l'écrire. Fait que moi, je suis vraiment jaloux de ton talent de compositeur.
Ah, mais je me suis inspiré beaucoup de vous, honnêtement. J'ai repris quelques bouts de chansons. Puis c'est tellement un... Je veux dire, c'est culturel, cette chanson-là, au Québec. En tout cas, pour quelqu'un comme moi qui est fan de hockey, je la connais par cœur, puis je trouvais que c'était une façon de faire un hommage puis de la rendre plus actuelle avec l'année 2021 qu'on a. Fait que pour vrai, merci à vous d'avoir fait ça. Ça a inspiré plusieurs jeunes comme moi. Puis je peux te jurer que moi et mes chums, on la connaît par cœur du début à la fin.
Biz, ça fait un petit velours.
Oui, complètement. C'est l'hommage ultime hein, quand les gens connaissent tes chansons en spectacle, les gens chantent les paroles, puis la... Quand les gens se l'approprient tellement qu'ils la réécrivent, ça, c'est l'ultime hommage. Puis c'est drôle parce que cette semaine, sur Twitter, il y a quelqu'un qui m'avait demandé de la réactualiser pour 2021. Alors, l'univers a entendu sa demande par l'entremise de Danick. Ça s'est finalement produit.
Formidable, messieurs. Merci beaucoup. Et allez Montréal. Je pense qu'on va gagner ce soir. Merci à vous deux.
Allez, Montréal. Salut, Danick. Salut, Patrick.
C'était Danick Martineau, humoriste de la relève, qui a fait une reprise de la chanson Le but. Et c'était Biz, leader, chanteur des Locolocas et aussi romancier qui est venu lui faire un petit coup de chapeau. Puis dans un registre un peu plus sérieux, le dossier des paradis fiscaux impliquant KPMG refait surface. Radio-Canada, CBC ont une équipe là, une équipe d'enquête qui suit ce dossier-là avec beaucoup d'assiduité. Et aujourd'hui, on apprend, là, selon des documents obtenus par l'émission Enquête et The Fifth Estate, que des clients très fortunés, clients du cabinet comptable KPMG, ont évité de payer de l'impôt, même après que l'Agence du revenu du Canada leur eut imposé des millions de dollars en pénalité. Donc, on va en parler immédiatement avec Marois Risky. Oui, elle est députée libérale provinciale, mais elle s'est fait connaître par sa lutte aux paradis fiscaux. Elle est fiscaliste diplômée en fiscalité internationale de l'Université de Floride. Madame Risky, bonjour.
Bonjour, et j'ai travaillé dans ce dossier avec les deux journalistes, Harvey Crusher et Frédéric Zalac de Radio-Canada, et c'est un dossier honnêtement scandaleux. C'est la pire fraude de l'histoire du Canada en matière fiscale.
C'est la OK, ce que l'enquête de CBC Radio-Canada, pour vous, là, il n'y a rien de pire comme ça en matière de pas de fraude fiscale, mais de paradis fiscaux.
Il n'y a rien de pire comme fraude fiscale que ce stratagème qui a été vendu par KPMG dans toute l'histoire du pays. Puis juste pour faire un petit topo, là, c'est assez simple comme stratagème. Vous êtes millionnaire, vous confiez de façon sur papier, donc de façon très théorique, vous donnez vos avoirs à ce qu'on appelle entre guillemets un ami administrateur. Lui est aux îles de Man, il gère votre entreprise et lui, pour vous ramener votre argent au Canada, il va vous faire une donation. Donc, un cadeau à chaque année pour que vous puissiez continuer à vivre. Mais une donation n'est pas imposable. Alors, disons que vous êtes la famille Coopers, vous avez une maison qui vaut 4,5 millions de dollars, et ça en 2005, à Victoria, en Colombie-Britannique. Vous voulez garder votre train de vie. Disons que c'est moi, votre ami, à l'île de Man. Vous dites, Marois, moi, envoie-moi 300 000 par mois, par exemple. Moi, je vais vous l'envoyer à chaque mois. Mais vous ne payerez pas d'impôt là-dessus. Et vous, de votre côté, vous avez déclaré, c'est ça que la famille Cooper, en fait, là, ils déclaraient 14 000, 18 000 $ par année. Nous, on les payait pour les faire vivre. Ils ont reçu des remboursements d'impôts. Ils ont reçu ce qu'on appelle le crédit de TPS. Ça, là, c'est pour les moins nantis de notre société, là. C'est honnêtement scandaleux. Ça, c'est le premier scandale. Mais le deuxième scandale, le plus dégueulasse là-dedans, c'est Revenu Canada. Revenu Canada a signé ce qu'on appelle une amnistie. Donc, lorsque finalement ce stratagème a été débusqué, et c'est pas par les gens de Revenu Canada, là, c'est par les Américains en 2003-2005, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, derrière les portes closes, ils ont signé une entente secrète avec la très grande majorité des clients de KPMG pour pas faire de prison, parce que la fraude fiscale, soit dit en passant, c'est un acte criminel, pas payer de pénalité. Puis ils ont presque annulé la totalité des intérêts. C'est une vraie blague, là. Puis c'est seulement grâce à Frédéric Zalac et Harvey Crusher de Radio-Canada qu'on a su par rapport à cette amnistie qui a été offerte.
Comment ça se fait que c'est permis? Comment? Écoutez, je vais acheter une paire de bas à Plattsburgh, puis je veux dire, ils vont fouiller mon char de A à Z pour essayer de voir si j'ai payé les taxes d'assises. Comment ça se fait que ce stratagème-là, qui existe, qui est connu, qui est connu depuis longtemps, Mme Rissi, comment ça se fait que ça se peut?
Ben parce que le gouvernement a regardé ailleurs. C'est ça qui est arrivé. Lorsque le premier reportage de Radio-Canada et de CBC, ils avaient une seule chose à faire, le gouvernement, c'était de faire une enquête. C'est ce qu'ils ont commencé à faire, en fait. Ils ont utilisé un des pouvoirs extraordinaires qu'ils ont. Ils ont convoqué devant les parlementaires à la Chambre des communes KPMG. Ils sont fait mentir à tour de bras par les gens de KPMG en disant, par exemple, je vous donne un exemple concret. KPMG, combien d'argent vous avez fait avec ce stratagème? Seulement 100 000 $ par client. Or, dans les documents publics, rendus publics par Radio-Canada et CBC, il y avait un pourcentage annuel. Alors, lorsqu'ils ont été confrontés à nouveau par Radio-Canada, KPMG a dit « Ouais, c'est vrai, on a oublié de mentionner ça lorsqu'on était devant le comité. » Franchement,
hey, écoutez,
ils ont fait de l'argent pendant des années.
Je vous interromps, mais mentir à un comité de la Chambre des communes, est-ce que c'est un acte criminel potentiellement?
Non, parce que je pense qu'ils n'ont pas été assermentés au moment qu'ils étaient devant le comité. Donc, si vous avez été assermenté, ça aurait probablement été autre chose. Mais savez-vous qu'est-ce qui est pire là-dedans? C'est que KPMG envoie une lettre aux membres, au fond parlementaire au fédéral pour leur faire un petit peu peur. Qu'est-ce qu'eux font? Ben, ils décident de fermer le comité. On arrête parce que finalement, ils lancent une règle de droit qui ne s'appliquait pas. C'est la règle subjudicée. Donc, subjudicée, là, c'est que lorsqu'il y a une poursuite criminelle, nous, les parlementaires, on ne peut pas dire, par exemple, au juge, hey, ça, là, ça mériterait 10 ans de prison. Nous, les parlementaires, on ne peut pas faire ça. Mais là, ça ne s'appliquait pas du tout, là, parce qu'il n'y avait même pas d'enquête criminelle. Là. Même pas. Donc, il n'y a même pas de plainte au niveau là, criminel. On est dans le civil, on est dans l'administratif avec Revenu Canada. Puis, ce qui m'écœure, c'est que je suis allée avec Alain Deneau, philosophe, Vincent Graton, comédien.
Ça, c'est dans votre coalition là, anti-paradis fiscaux il y a quelques années.
Ben oui, on est allé les voir à Ottawa, puis j'ai rencontré le haut commissaire fédéral pour la RC, Ted Gallivan. Là, je lui dis, hey, le bruit de couloir que j'entends de mes amis avocats sur le plancher, là, ils me disent que vous êtes en train de signer une entente aussi avec la famille Coopers. Puis si vous faites ça, vous allez nous, les contribuables, vous allez nous priver de connaître la vérité, la totale vérité, parce que notre tribunal, nous, au Canada, on a fait le choix que c'est public. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, pour que les gens comprennent c'est quoi les peines, c'est quoi les conséquences de vos gestes. Mais aussi, la deuxième raison pourquoi que nos tribunaux sont publics, parce qu'on veut aussi juger la sentence. Est-ce que le juge, là, lorsqu'il remet sa sentence, est-ce qu'elle est suffisamment correcte? Et là, ils nous ont privés de tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont signé encore une autre entente secrète où est-ce que personne ne va savoir qui a fait quoi, est-ce qu'il y a eu le concours de quelqu'un à Revenu Canada pour que ça puisse durer pendant plusieurs années, alors que le FBI américain avait transféré l'information depuis 2003 ou à Revenu Canada sur ce stratagème. Il y a un document public que n'importe qui peut aller chercher. En 2003, le gouvernement américain a décidé de s'attaquer contre KPMG. En 2005, ils ont mis une amende contre KPMG pour le même stratagème, 456 millions de dollars américains à payer. Nous, au Canada, absolument rien contre KPMG.
Madame Risky, est-ce que nos parlementaires qui font les lois à Ottawa sont juste naïfs et incompétents ou alors... les gens qui bénéficient de ces stratagèmes ont d'excellents lobbyistes pour faire voir la bonne lumière aux parlementaires.
Excellent, excellent lobbyiste. Même moi, j'étais à ce moment-là professeur à l'Université de Sherbrooke. Pouvez-vous croire qu'il y en a un d'entre eux de KPMG, dans un cocktail, c'est devant un de mes collègues, pour faire la pression contre moi, là, pour que moi, je sois retirée. Puis honnêtement, je suis fière de mon université.
Que vous soyez retirée de quoi?
Ah, parce que j'étais pas encore à ce moment-là agrégée. Donc, j'avais pas encore ma permanence lorsque je dénonçais ça. Alors, pour qu'on me mette à moi de la pression pour que je me la ferme. Puis, sincèrement, là, j'étais tellement insultée, là, que j'ai une chance que mon université m'a toujours protégée et qu'ils m'ont laissé continuer. Mais j'ai pas de leçon de recevoir de KPMG, ni aujourd'hui, ni demain, puis je vais continuer à parler.
C'est toujours divertissant de vous parler et écoutez, vous êtes en verve quand il s'agit de paradis fiscaux. Merci de nous avoir parlé. Bon week-end.
Merci à vous.
Salut, c'était Marois Risky, fiscaliste, députée libérale de Saint-Laurent. Elle s'est fait connaître sur la scène publique avec cette croisade contre les paradis fiscaux. Ben, c'est une cause, vous venez de l'entendre, j'ai pas eu beaucoup de questions à poser, qui lui tient encore à cœur. Écoutez, juste rappeler, c'est caché, on n'en parle pas beaucoup, c'est difficile de creuser là-dedans, ça prend des mois d'enquête journalistique, etc., etc. Il n'est pas question ici d'élus ou de conseillers municipaux ou des conseillers scolaires qui réclament 37$ pour des bouteilles de vin dans des soupers bien arrosés. Là. On parle de milliards et de milliards et de milliards.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Là-dessus, entrevue, une autre entrevue un peu légère.
Baby, give it up. Na, 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 na. Give it up. Baby.
Continue, Hugo. Bien parti.
Une chanson de circonstance.
Ben oui, give it up, ça veut dire abandonne, mais toi, tu n'abandonnes pas. Mesdames et messieurs,
jamais.
Hugo Meunier, journaliste à Urbania, est au bout du fil. C'est une chanson de Jacinthe. Elle a été populaire au début des années 2000. Hugo, tu as tous les talents, tu fais des reportages très vivants, très terrains chez Urbania, mais aussi, tu viens de nous le montrer, tu es un amateur de karaoké. Mais là, Parlons de Jacinthe. Elle refait surface dans l'actualité, pas comme chanteuse, elle veut se présenter pour être conseillère municipale à Laval. Toi, tu t'es dit en tant que reporter tout-terrain, je vais aller la rencontrer, voir où elle est rendue. Raconte-nous dans le détail ce qui s'est passé après ta demande d'entrevue.
Ben justement, bon, je suis peut-être un peu naïf, mais je pensais que plusieurs personnes essayeraient de faire une entrevue avec. C'était quand même une nouvelle. C'est la formation politique de Laval qui s'appelle Action Laval. Donc, ils ont annoncé ça en grande pompe sur leur Facebook la semaine dernière. Candidate de prestige en majuscule, grosse nouvelle, Jacinthe se lance, est rendue enseignante, l'ancienne chanteuse. On s'en rappellera, Patrick, tu te rappelles peut-être de la populaire télésérie La vie rurale.
Inoubliable.
Inoubliable, avec Anne-Marie Lozic, qui était la version locale de Simple Life. Et bon, elle était quand même connue, elle avait une notoriété, elle a fait de la chanson, et je me suis dit, ben, tu sais, ça, c'est pourquoi pas, une entrevue, de voir qui sont-ils devenus.
C'est ton genre de topo, là.
C'est mon genre de topo, et je me disais, ça va être un walk in the park, comme on dit en français. Ça va être facile à boucler et tout ça, parce que bon, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, elle est quand même moins sollicitée que Céline Dion récemment. Alors bon, ben, j'ai juste fait une demande en bonne et due forme via le Facebook de la formation politique. On accuse réception gentiment. Il y a un comité média qui va entrer en contact avec moi, mais dit-on, un comité média, ça, on voit pas ça souvent, mais ils sont bien organisés là-bas. Et finalement, bon, ben c'est là que les problèmes ont commencé. Ça a été le domaine des dieux d'Astérix jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours pas eu d'entrevue avec madame. Mais écoute, ça a été donc trois jours après, j'ai été obligé de les relancer. Je me demandais qu'est-ce qui se passait avec ça. Là, on me demandait c'était quoi mes questions. Et ça, tu le sais, il y a une règle d'or de choses à ne pas demander à des journalistes, c'est donne-moi tes questions par écrit ou donne-moi tes questions tout court. C'est notre travail, ça, de poser des questions et eux de se préparer. Ces gens-là se lancent en politique, donc devraient être capables ou du moins devraient avoir quelques notions de faire face à la musique, faire des entrevues et tout. Bref, c'est super compliqué. Ça a duré une semaine. On me relançait la balle, quelle heure, quand. Là, moi, j'insistais pour le faire en présentiel.
Oui, parce que t'en as fait le récit sur ta page Facebook. C'est ça qui m'a donné l'idée de t'inviter. Toi, tu veux rencontrer les gens en personne. Le téléphone, ça te tente pas. Écoute, il semble que c'est un concept hyper exotique à Laval, chez Action Laval, de faire rencontrer de laisser les candidats rencontrer les journalistes en présentiel.
Oui, puis là, tu sais, je veux pas avoir l'air d'une diva qui est comme, bon, ben j'ai des exigences, tu me connais, je ne suis pas une diva, mais moi, je trouve ça plus pertinent de rencontrer la personne pour mettre de la couleur, pour prendre des photos, parce qu'on fait ça aussi, nous, les journalistes. Et bon, ben et après ça, bon, on invoquait toutes sortes de choses de leur côté, comme quoi, bon, elle est enseignante, Jacinthe, donc elle est plus ou moins disponible avant le 29 juin, avant la fin de l'année scolaire. Ce qui est correct, tu sais, j'ai rien contre ça, puis c'est vrai que les profs sont dans le jus, puis travaillent très, très fort, puis je sors avec une prof, moi, qui est à moitié morte, puis que j'avais hâte à la fin de l'année, mais d'abord, lance pas ta campagne électorale un mois avant, en majuscule, en disant grosse nouvelle, puis après ça, tu refuses des demandes d'entrevue. C'était juste ce principe-là. Ça se voulait quand même drôle, là, mon statut.
Oui, oui, oui. Oui, non, non, écoute, t'étais pas rageur là-dedans, t'étais plutôt un peu dépité, mais dis pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, là, écoute, ça a été difficile. C'est encore difficile d'avoir une entrevue avec l'ex-chanteuse Jacinthe qui veut être conseillère municipale à Laval dans le district de Vimont. Quels politiciens, politiciennes ont été plus faciles à booker pour toi?
Ben Valérie Plante, écoute, l'année passée, on a fait un beau live avec pour Urbania, puis ça a pris, je pense, 4 secondes et quart. L'équipe a embarqué rapidement, mais c'est souvent juste dans la manière aussi. Tu sais, je pense qu'il y a un peu d'amateurisme là-bas, puis sans leur lancer des briques, tu sais, peut-être qu'ils vont s'adapter, puis ils sont peut-être pas habitués à avoir un flot de demandes d'entrevue, mais c'est sûr que quand t'es déjà rodé, comme on dit, ben tu sais qu'au pire, t'accuses réception, tu donnes des options de plage horaire, tu fais juste un coucou, mais là, c'est moi qui j'avais l'impression de vraiment leur tordre un bras pour faire une entrevue avec Jacinthe. C'est ça qui rendait le truc surréaliste et qui m'a inspiré un petit coup de gueule virtuel hier sur Facebook.
Tu lâcheras pas le morceau, hein? Le droit du public à l'information va quand même triompher.
Les gens, la vérité va éclater. Je vais rencontrer Jacinthe un jour, puis je vis en attente de ce moment-là.
Écoutez, on va te réinviter. Merci beaucoup, Hugo.
Salut bien.
Bye. Salut. Hugo Meunier, reporter à tout terrain pour Urbania. Et vous l'avez entendu aussi, grand champion de karaoké pour ce qui est du nord de Rosemont. En 2009 et 2010, deux années mémorables pour le karaoké au Québec. Martin McGuire s'en vient. 16h19. fin de l'année scolaire approche. Et si vous avez des enfants, surtout à l'école primaire là, et aussi à la garderie, ben vous vous demandez peut-être comment remercier les enseignantes qui se sont occupées de vos enfants. Qu'est-ce qu'on achète comme cadeau? Il y a une mère de famille qui m'a écrit ce matin, Marie-Michèle Tremblay, c'est la maman de Florence, qui est dans une école de première année. Elle, elle voyait passer des suggestions dans les groupes de parents auxquels elle est abonnée, puis elle se disait, ouais, c'est un peu plate. Elle a eu une idée originale, j'ai décidé de la mettre en onde, de Marie-Michèle Tremblay. Salut!
Allô, Patrick, ça va bien?
Très bien, vous-même?
Ben oui, c'est ça, ça va super bien. Merci d'avoir répondu à ma bouteille à la mer. Je me disais comment offrir quelque chose de mémorable à Mme André qui, ma foi, a une année fort occupée.
Ben justement, on va parler de Mme André, mais dites-nous d'où c'est venu là, l'idée de faire un cadeau original.
Ben c'est ça. Hier, je voyais passer là, auprès des parents sur Facebook, des trucs, là, je cherche un cadeau pour le professeur de mon enfant. Puis là, je regardais les commentaires pour m'inspirer. Puis là, j'ai vu des bulles de bain. Puis là, ça a été le déclic. Je disais, c'est vraiment pas digne de Mme André que je lui envoie un ensemble de bulles de bain. Vraiment, je me suis dit, comment faire en sorte qu'elle va se souvenir de notre cadeau. Puis, je t'ai écrit un texte. Puis, grosso modo, qu'est-ce que je disais dans ce texte-là? C'est que Mme André, c'était une retraitée. Elle avait pris sa retraite tout juste avant la COVID. Puis
oui.
Elle rêvait de voyager, toi. Puis finalement, ses plans tombent à l'eau. Puis, en fait, elle enseignait, mais après ça, elle a été directrice, conseillère pédagogique. Fait que ça faisait quelques années qu'elle n'avait pas enseigné. Puis quand on est arrivé à l'école, on avait une année difficile. Là. On s'entend, COVID, mon conjoint a perdu son travail. Bref, je vous épargne toute notre vie. Tout le monde a eu une année vraiment difficile. Mm-hmm. Puis nous, on se rattachait à la première année. On se disait, ça va être une belle année, tu vas avoir un professeur. Puis là, quelques heures avant de la première journée de première année, on reçoit un courriel qui dit « Ouais, ben, vous n'aurez pas de professeur cette année pour commencer l'école. » Fait que là, on était comme « Ah non, pas une autre affaire plate qui arrive. » Fait que là, on a eu la ronde des remplaçants, là, tu sais, oui. Ils n'ont jamais enseigné en première année. Puis là, un jour, après quelques mois, Mme André est arrivée.
André Rouleau, de son vrai nom.
Oh oui, je la salue. Je pense qu'elle nous écoute en route vers les Laurentides.
Oui, de l'École des Monarques.
Oui, dans l'est de Rosemont. Alors, je salue tout le monde. Puis quand j'ai reçu le courriel qui disait « Désolé, votre enfant n'aura pas de professeur pour commencer l'année », j'ai fait partie des gens qui sont un peu fâchés. Là, on dirait que tout le monde a une petite colère intérieure ces temps-ci. Puis je suis vraiment pas comme ça dans la vie, mais là, j'ai répondu un petit peu passive-agressive à la directrice. Madame Julie, je m'excuse, elle a fait du mieux qu'elle peut avec les ressources qu'elle a, mais j'ai comme fait « Ah non, une autre année, pas de prof, je suis un peu fâchée ». Puis finalement, ça a été une histoire d'amour avec Mme André. Fait que c'est pour ça que je veux lui offrir mes bons mots. Elle est revenue à l'école, à l'enseignement, avec une belle classe de d'amis tannants, avec le masque, avec le Purel, à tous les matins.
Alors qu'elle n'était pas obligée de le faire, il faut le dire, Marie-Michèle.
Ben c'est ça, tu sais, d'accord, peut-être qu'elle rêvait d'aller à Tokyo puis ça s'est pas passé, mais elle aurait pu rester au chalet dans son spa, tu sais, puis finalement ben elle a bravé les voitures le matin, les poules, les amis qui ont tout le nez qui coule, on s'entend. Puis, ben, tu sais, je me disais, mon Dieu, j'espère qu'elle va toffer. On essayait tout de lui envoyer de l'amour puis de dire qu'elle est importante pour nous. Puis, tu sais, là, on arrive à la fin de l'année, puis elle est encore là. Je voulais vraiment la saluer parce que, tu sais, c'est dur pour tous les profs. Mais Mme André, je trouve que vraiment, tu sais, qu'on a dit aux profs, on a besoin d'aide, y a-t-il des gens disponibles? Ben, elle a levé la main. Puis, nous, elle nous a sauvé la vie parce que notre santé mentale, là, après une année comme ça, tu dis, bon, je peux bien enseigner la maternelle à mon enfant. Je suis pas pire en couleur, puis compter, je sais compter. Mais apprendre à lire, à écrire, c'est du toc, hein? C'est pas facile. C'est pas tout le monde qui a ces facultés-là.
Non, c'est un talent, c'est un métier, ça s'apprend.
Ben vraiment. Puis, c'est nous, notre fille, elle aime la science. C'est rare, les filles qui aiment la science. Moi, je suis vraiment poche. Je trouvais ça vraiment chouette qu'elle aime ça. Puis, Mme André, elle a décidé, malgré que c'était pas nécessairement dans le cursus scolaire, elle a décidé de faire des exposés oraux sur le thème de la science. Chaque amie faisait une expérience dans la classe ou dans la cour quand le volcan, ça explose trop. Elle a acheté des livres sur la science. Elle a vraiment donné le goût de la lecture à mon enfant. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'il peut recevoir à 7 ans. Aimer lire, tu sais, il fallait que j'aille la chicaner le soir, là, comme Florence, c'est l'heure du dodo, on arrête de lire.
Un enfant qui lit, là, c'est un très bon signe à 7 ans. Marie-Michèle, avant de vous quitter, ça a été quoi le cadeau, finalement, de Mme André Rouleau?
Ben, c'est ça. Je lui donne tout mon amour à la radio en te parlant. Je pense qu'elle va s'en souvenir toute sa vie. Puis peut-être que je lui achèterai un kit de bulles de bain.
Hey, merci beaucoup. Bonne fin d'année scolaire. Puis je trouve que c'est un excellent résumé que vous avez fait là, Marie-Michel, de l'importance des profs et aussi de l'importance qu'il faut leur communiquer comme ça parfois publiquement. Merci d'avoir été avec nous.
Ben, merci pour votre aide, puis bon week-end.
Salut, à la prochaine. C'était Marie-Michel Tremblay, elle est la mère de Florence. Je voulais rendre hommage à Mme André Rouleau, qui est enseignante, vous l'avez entendu, en première année à l'École des Monarques dans l'Est de Montréal. Mme André n'était pas obligée de sortir de sa retraite pour revenir donner main forte, là, prêter main forte en cette époque de pénurie de profs. Elle l'a fait. Ben, elle a joué un rôle déterminant pour la petite Florence, 7 ans. On salue tous les profs qui sont à l'écoute et on leur dit merci.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Salut Luc.
Salut.
Bon, pas de balle de finissant pour les aînés, mais tu penses qu'ils en mériteraient un?
Et tabarouette. Écoute, en préparation à cette chronique, là, j'ai pas mal lu sur les conditions de vie des aînés dans les résidences pour personnes âgées, mais aussi dans les CHSLD, bien sûr. Il s'est passé quelque chose qu'on n'a peut-être pas tous compris. Moi, j'avais pas compris à ce niveau-là, en tout cas. Tu sais, j'avais lu des choses, mais il s'est passé la chose suivante. C'est que comme on a été l'endroit du monde où il y a eu le plus de décès dans la première vague dans les résidences pour personnes âgées, il y a eu un retour du balancier extraordinaire en termes de discipline. Et on a imposé des conditions hors du commun. Je pense que oui, il y a eu la vaccination qui va très, très bien puis qui nous permet de comprendre pourquoi on s'en sort. Mais le fait qu'il n'y a pas eu de troisième vague, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de décès chez les personnes âgées, c'est pas arrivé tout seul. Je lis les choses, là, puis la mâchoire m'en tombe par terre. 72 jours confinés, pas le droit de sortir de sa chambre. 72 jours dans un CHSLD. Oui.
Ah non, écoute, le principe de précaution, là, on l'a appliqué pas mal fort.
Écoute, donc pas de bain, parce que tu peux pas, évidemment, des personnes âgées aussi, qui tous les jours, on les assoyait dans leur chaise, ça avait changé. On les installait plus dans leur fauteuil, seulement deux après-midi par semaine, le reste toujours au lit. Les piscines fermées, les gymnases fermés, même pour une seule personne, pas le droit d'y aller. Les repas servis à la porte dans bien des CHSLD. Il y a une médecin qui a fait le tour avant de parler de cette médecin-là, il y a des gens pour qui ça change pas grand-chose. Ils sont à l'article de la mort, ils peuvent pas se déplacer, ils sont extrêmement faibles. Mais il y a aussi plein de gens qui prenaient des marches tous les jours, là. Il y avait des gens qui prenaient leur marche de 2 heures tous les jours dans le village, au bord du lac, etc. Et là, enfermés dans leur chambre. Alors, les conséquences ont été énormes pour ceux qui avaient encore de la vitalité puis de la capacité, de la force, de la capacité musculaire aussi. Donc, il y a une médecin qui a fait le tour d'une résidence en particulier, une résidente pour personnes autonomes, des personnes âgées autonomes, s'est rendu compte que la plupart de ces personnes-là ne pouvaient plus se lever de leur lit. Et qu'un bon nombre n'était plus capable de manger par elles-mêmes, donc avaient perdu la motricité fine pour manger avec leurs ustensiles. Les conséquences donc de cet enfermement sont bien plus importantes que juste le nombre de personnes qui ont contracté ou pas la maladie. Là. Il y a toute une un pan de la population aînée qui en a perdu. Et là, avec la réouverture qui est annoncée aujourd'hui sur un ton sibyllin, oui, c'est le fun, les aînés vont pouvoir retrouver leur liberté. C'est plus que ça, là. Il y a eu de l'inactivité pendant des mois et des mois, impact sur la masse musculaire, les articulations, le raisonnement, l'autonomie, la motivation, les capacités cardiovasculaires, les risques de chute, l'équilibre. Il y a des mois devant nous. Puis moi, je pense que un truc que j'ai appris en lisant ça aussi, c'est que le moindre effort compte. Tu sais, on se dit, il y a des gens qui sont plus capables de se lever de leur lit, mais il faut travailler avec les poignets, avec les épaules, avec les... Donc, l'exercice, même si c'est un tout petit exercice, ça compte. La rencontre, même si c'est une toute petite rencontre, ça compte. Le sourire, même si c'est un tout petit sourire sur le coin, une petite jazzette, quelque chose, ça compte. Alors, moi, je me dis, on a tous un rôle à jouer là-dedans.
OK, quand on va regarder dans le rétroviseur, là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, tu penses?
Je le sais pas, mais je commence à penser que la santé publique, il fait son tabarouette. Comment il s'appelle, le Sheffield, le gars, là, quand il rentre dans le...
Oui, Shifley.
Shifley. C'est une sorte de Shifley en eux, là, eux autres. Tu sais, quand tu dis, par exemple, pour le bal des finissants, où il avait demandé à chaque jeune d'amener leur propre crayon pour signer le diplôme, pour pas qu'ils changent de crayon, des fois, ils fessent un peu fort. Là, regarde, même dans le déconfinement, bon, écoute, on reconnaît tous l'importance de fesser fort, il fallait réagir très fort avec le nombre de morts qu'on avait eu, il fallait pas niaiser, là. Mais est-ce que c'était pas trop fort? Et je lis le détail du déconfinement, et je me rends compte qu'encore là, ça n'a pas été écrit par un pédagogue, là. Ça a été écrit par des spécialistes, mais une chatte, il ne retrouverait pas ses petits, là. T'sais, en zone verte, tu peux recevoir 9 personnes à l'intérieur de ton milieu de vie. En zone jaune, tu peux recevoir la famille d'une autre bulle familiale. En zone orange, tu peux recevoir une personne à la fois. Dans toutes les zones, tu peux aller manger avec des proches, mais il y a des conditions au repas. Puis il y a le masque ou pas le masque en fonction de la vaccination ou pas la vaccination. C'est compliqué, puis on arrive vers la fin. Là, tu dis, ouais, est-ce que tout le monde va respecter ces règles-là telles qu'elles sont écrites de cette façon-là? Je trouve que...
La bonne nouvelle, c'est que dans les RPA, dans les CHSLD, les taux de vaccination des résidents sont très élevés. Là. Je pense que c'est le groupe où on flirte avec... On n'est pas à 100 %, Luc, là, mais on est dans les 90 %.
C'est fort. Hey, as-tu vu ça aujourd'hui? On a dépassé Israël.
Ah oui?
Ben oui, c'est pas rien, ça. Le Québec a dépassé Israël et en fait, est à peu près au top. Là. On est à peu près les meilleurs au monde. Oui. Extraordinaire. On a dépassé évidemment la Grande-Bretagne, les États-Unis, des pays qui avaient beaucoup d'avance sur nous. Et on se compare même pas avec les pays européens, là, comme la France, l'Espagne, l'Italie, l'Australie. Ils sont vraiment très, très loin de nous. C'est vraiment ici que ça se passe, là, un taux de vaccination extraordinaire. Donc, on sent que cette première vague qui nous a fait très mal a amené un resserrement de la discipline, de la mobilisation, de la vaccination. Et chez les aînés, ça a été une épreuve. Ça a été une énorme épreuve.
Je t'amène sur un autre terrain, je t'amène dans un parc. T'as vu que M. Coderre a reculé sur sa suggestion d'interdire les gens prennent un coup, selon ses mots, après 20 heures. Est-ce que politiquement, c'est une bonne décision ou ça va y coller à peau?
Non, c'est une bonne décision parce que en fait, il maintient son discours sur faut voir ce qui se passe dans les parcs, la propreté, etc., le bruit. Mais c'est l'heure qui était pas bonne. Là. Il s'était trompé sur l'heure, là, vachement trompé. Là. Il n'y avait pas... Il rentrait dans un domaine qui l'a pas beaucoup intéressé dans le passé.
Quel domaine? Qu'est-ce que tu veux dire?
Les parcs. C'est pas un domaine. Même, je te dirais que, il était plutôt dans son premier mandat, il a plutôt tendance à dire faut fêter. D'ailleurs, ça m'amuse parce que.
Ben, écoute, il avait émis l'idée d'étirer les heures d'ouverture de certains bars jusqu'à 6 heures du matin.
C'est ça. Là, il va falloir qu'il fasse une autre petite. Il aurait fallu qu'il fasse une autre petite correction s'il avait maintenu sa première théorie, sa première vision. C'est que. Au Cheaga, pique-nique électronique, Vimetal Montréal, c'est dans un parc, là, tu sais. Fait que, à 20h, on coupe la musique, on enlève la boisson. Il aurait fallu qu'il commence à fêter pas mal tôt le matin pour être capable de faire toute la programmation. Mais je pense que M. Coderre a réalisé, là, que.
J'en parlais avec Philippe et Catherine tantôt, là. Es-tu d'accord? C'est comme si les Montréalais avaient redécouvert leur parc pendant la pandémie.
Totalement. Le parc ici joue aussi un rôle de place publique, de terrasse. C'est amusant, ça, les parcs. T'sais. Tu vas dans une ville, là, va visiter les parcs. C'est fabuleux. Par exemple, à Paris, Paris a changé en 20 ans, là, extraordinairement, comme nous d'ailleurs. Les bords de la Seine, ils en ont piétonisé une partie, mais il y en a qui étaient des parcs depuis longtemps. Moi, j'avais vécu 5 ans là, il n'y avait jamais un chat. Maintenant, la dernière fois que je suis passé, il y a 5 ans, bondé, des cours de tango, des pique-niques de 40 personnes. C'est la même chose à Montréal. Il y a tout ça à Montréal, là. Cours de tango, cours de salsa, pique-nique de 40 personnes, fête d'enfants. Ça a été réinventé. Tu vois, dans d'autres villes du monde, ils ont leur façon de faire aussi. Là, ils s'étendent au soleil. Il y a beaucoup de, en Allemagne, par exemple, beaucoup de nudité dans les parcs.
Pardon?
Oui, à Berlin, oui. Beaucoup de nudité dans les parcs, ouais.
Comme du naturisme, là?
Du naturisme. Mais ils ont des parcs immensément grands, là. Ce sont des forêts, là. C'est gigantesque, les parcs de toute l'Europe centrale, l'Autriche, l'Allemagne. Mm. Il y a des parcs qui sont 10 fois plus gros que le Mont-Royal, là, tu sais. Mais c'est ça. Les parcs, c'est une partie de notre mode de vie. Puis je trouve que pendant des années, on l'a pas bien exploité, tu sais. Baseball, Revel au chocolat dans les estrades. Mais on n'a pas. Et là, maintenant, ça commence. Et donc, c'est un défi. Faut le gérer. Mais c'est le fun. C'est le fun que la collectivité s'empare des parcs comme ça. Faut en construire plus.
Merci, Luc. On se reparle lundi. Bonne fin de semaine.
Bonne fin de semaine à toi.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.